Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérix. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin des États-Unis, alors que les primaires démocrates débuteront le 3 février prochain. On va se tourner donc vers cette présidentielle américaine qui se tiendra, elle, dans un peu plus de 10 mois maintenant. La course est déjà bien lancée et le calendrier s'accélère avec une procédure de destitution qui pourrait bien avoir des conséquences pour Donald Trump peut-être, mais aussi pour le camp démocrate, puisque certains de ses représentants en lice devront assister au procès en destitution qui s'ouvrira la semaine prochaine au Sénat. En effet, les deux des favoris, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, seront bloqués à Washington juste avant le vote de l'Iowa, pourtant décisif pour bien se lancer. Alors Joe Biden tirera-t-il bénéfice de cette situation? Le favori des sondages serait-il d'ailleurs un bon candidat pour battre Donald Trump? Et d'ailleurs, le président sortant peut-il perdre? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Laurence Nardon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Et vous tenez d'ailleurs un podcast Trump 2020, hein, je crois, qui est disponible sur le site de l'IFRI. Avec nous également Laurie Kenton. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous maître de conférence à l'Université de Versailles 51 en Yvelines. Merci d'être avec nous. Avant d'évoquer les États-Unis, on va aller du côté de Taïwan avec François Bougon. Bonjour François Bougon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Mediapart, chef du pôle international, ancien correspondant à Pékin. Vous avez passé une semaine à Taipei. Alors, quelques éléments. Alors que les mobilisations se poursuivent du côté de Hong Kong, samedi dernier, à quelques 700 kilomètres de là, la présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-wen, a été réélue pour un second mandat de 4 ans avec une majorité assez large, 57% contre 38% pour son rival du Kuomintang, soutenu évidemment par Pékin. Cette victoire, elle doit être vue aussi comme une victoire du camp d'opposition au PCC et vient aussi peut-être encore fragiliser cette fameuse formule qu'on répète souvent, un pays deux systèmes, qui a d'ailleurs été utilisée pour les deux territoires, à la fois pour Hong Kong, mais aussi pour Taïwan. François Bougon, cette présidente sortante, Tsai Ing-wen, elle est une responsable politique clairement affiché à toute forme d'unification, de réunification à la Chine continentale, jusqu'où cette position en particulier doit être vue comme la raison de son succès, François Bougon?
C'est un facteur important, c'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important. Alors comme j'ai rencontré par exemple à Taïwan un observateur de la vie politique taïwanaise depuis des années qui s'appelle Franck Muyard, qui est le responsable de l'école française d'Extrême-Orient. Et lui, pour essayer de faire comprendre les enjeux de ces élections, il dit pour gagner les élections taïwanaises, il faut trois facteurs. Il y a à la fois le facteur identitaire, donc cette relation avec la République populaire de Chine, qui définit aussi l'identité taïwanaise. Il y a le facteur économique. Et puis, il y a un autre facteur qui est le facteur de la probité, de la corruption, etc. Et c'est vrai que sur ces trois éléments-là, sur ces trois cases, elle les a cochées. Sur la question identitaire, alors vous dites qu'elle, bien sûr, elle appartient à ce DPP, ce parti qui, à l'origine, prône l'indépendance de Taïwan, mais elle est beaucoup plus pragmatique. C'est une modérée, c'est une techno, et elle est critiquée aussi pour ça. Mais elle a compris qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'à la confrontation militaire avec la Chine. Donc, elle a adopté depuis les débuts, et c'est aussi pour ça qu'elle est critiquée en interne par les plus radicaux et ceux qui voudraient qu'il y ait une déclaration d'indépendance. Elle dit non, je ne peux pas faire ça, sinon de toute façon c'est la guerre. Et donc, elle est sur une position, Taïwan, de fait, est indépendant. Mmh. Et elle est indépendante, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle la République de Chine. Mais c'est la République de Chine, Taïwan. Donc, on est indépendant de fait. J'ai pas besoin de le proclamer haut et fort.
Et voilà. C'est cette affirmation quand même qui lui a permis de l'emporter. Si on revient un tout petit peu en arrière, lors des dernières élections provinciales, son parti avait été quand même mis assez largement en déroute. Et dans les sondages, elle se portait pas très bien, à tel point d'ailleurs qu'elle a dû quitter la direction de son parti. Là, si elle revient en force et si elle est en capacité de gagner aussi largement, c'est aussi parce qu'elle affirme ça très fort. Elle a fait un discours assez notable après l'intervention intervention de Xi Jinping qui avait expliqué que le rattachement de Taïwan était quelque chose d'inévitable, sans parler d'horizon. Mais c'est le discours qui avait suivi, la réponse de la présidente qui lui a permis de revenir en force.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les élections de 2018, qui sont des élections locales. Elles se sont pas jouées sur cette question identitaire en majorité. Elles se sont jouées sur des déceptions au sein de son camp. C'est-à-dire, alors, il faut repartir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un moment important dans la vie politique taïwanaise, qui est le mouvement des tournesols en 2014. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement des tournesols? C'est à un moment donné, le président de l'époque, qui est un président nationaliste, un nationaliste chinois, qui s'appelle Ma Ying-jeou, qui est partisan d'un rapprochement avec la Chine. Et le moyen pour lui de faire ce rapprochement, c'est d'essayer de faire passer un accord économique qui permettrait d'ouvrir le secteur des services de Taïwan et de faire en sorte que la Chine soit beaucoup plus présente économiquement. Ça a provoqué une réaction. Il disposait à la fois de la présidence et aussi il disposait de la majorité au Parlement. Donc il a voulu passer en force au Parlement. Enfin, il a voulu passer au Parlement et il y a eu une réaction de la jeunesse taïwanaise. Ils ont occupé, et c'est bien avant le mouvement des parapluies à Hong Kong.
Ouais, c'était 2014.
On a souvent dit que le mouvement des parapluies avait pris un modèle sur le mouvement des tournesols. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que ça a marqué une sorte de coupure générationnelle. Tout d'un coup, la jeunesse taïwanaise qui se revendique, non pas chinoise, parce que vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, ces jeunes taïwanais se revendiquent d'abord comme taïwanais. Leur identité, c'est l'identité de Taïwan, c'est-à-dire un pays démocratique où on bénéficie de lois sociales, le mariage pour tous, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? C'est qu'une partie des gens qui soutenaient Tsai Ing-wen, alors les jeunes, et puis aussi les plus durs au sein du DPP, ont considéré qu'elle était trop molle, qu'elle avait... Par exemple, les jeunes ont été déçus par ces réformes sociales insuffisantes. La loi sur le mariage pour tous patinait. Voilà, donc elle a été sanctionnée à ce moment-là. Et alors, pourquoi c'est intéressant?
Elle est passée depuis cette loi.
Elle est passée. Ouais. Elle est passée parce que, justement, elle a fait appel à un premier ministre qui est un vieux de la vieille du DPP, qui sait exactement comment faire pour faire adopter. Et il a réussi à faire adopter cette loi juste l'année dernière. Donc, en fait, elle a retourné la situation. Et là, ce qui s'est passé aussi, c'est ce que j'ai pu voir lors de mon reportage, c'est que la jeune génération s'est massivement mobilisée parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur du retour au pouvoir du KMT qui, lui, à la fois sur les questions sociales, sur les questions identitaires, est un parti qui n'a pas forcément les bonnes réponses à leurs yeux.
Et qui se sont mobilisés, y compris dans des formes partisanes. Vous avez rencontré notamment une jeune fille qui s'appelle Cao Yu Ting, qui est une jeune ingénieure de la tech, et qui fait partie justement de cette jeune génération que vous nous décrivez, qui s'est présentée sous la bannière d'un nouveau parti qui s'appelle le NPP, le New Power Party. Est-ce que ça veut dire que... Quelles sont les capacités réelles de ces nouveaux partis? Est-ce qu'ils vont pouvoir déborder par la gauche le parti démocrate traditionnel? Est-ce que le parti démocrate va finalement absorber toutes ces nouvelles forces émergentes qui sont aussi le fruit précisément de ce mouvement des tournesols que vous évoquez?
Ce qu'on a vu là pour cette élection précise, ça a été la capacité du DPP de reprendre ce qu'on appelle à Taïwan la troisième force. Alors, 2014, c'est pour ça que je reviens sur le mouvement des tournesols. Tous ces jeunes qui se sont engagés ont créé, alors pas tous, mais une partie a créé des partis indépendants. Alors, Shedai Li Liang, le New Power Party, avec un personnage très très connu à Taïwan qui est le hard rocker Freddie Lim, qui après est parti parce qu'en fait il y a eu des dissensions internes. Mais il y a une série comme ça de partis qui représentent la troisième force et en fait qui est un héritage du mouvement des tournesols. Et en fait, la grande leçon de ces élections-là, c'est que le DPP a réussi à capter un électorat qui aurait pu voter pour cette troisième force, mais qui, en raison des enjeux, ont décidé finalement de voter plutôt pour le DPP. Le Shedai Li Liang, le New Power Party, n'a plus que trois sièges, je crois. Ils ont perdu trois sièges.
Est-ce que ça peut s'expliquer en partie par les manifestations du côté de Hong Kong, précisément? C'est-à-dire que cette fameuse affirmation d'indépendance vis-à-vis de Pékin, c'est ce qui a tout balayé dans la campagne?
Ça a été un élément important. C'est-à-dire que ça a permis à Tsai Ing-wen, ce que les journaux taïwanais, qui sont plutôt hostiles à Tsai Ing-wen appelle la carte de la peur de la Chine. Mmh. Et donc, elle a joué énormément là-dessus. C'est pas un élément capital, mais c'est un élément essentiel pour comprendre sa victoire. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé dans ses meetings, dans les vidéos de campagne, de dire aux jeunes Taïwanais, notamment de leur dire, regardez, vous pouvez vivre libre, vous pouvez vivre en paix. Et regardez, à 700 km de là, vous avez des jeunes qui se battent, qui sont arrêtés, qui sont tabassés par la police, etc. Et donc, c'est un discours, le discours de la peur de la Chine. Et donc, ça met en pièce complètement le discours de Xi Jinping de janvier 2019, qui est un autre élément important, quand il dit, il revient et il dit... Pour moi, un pays du système, c'est important. Et de toute façon, un jour ou l'autre, on va réunifier la Chine et Taïwan parce que ça participe de la renaissance de la Grande Chine.
On va revenir sur justement les ambitions de Xi Jinping, mais ce discours que vous évoquez de la présidente taïwanaise, il vient pas de nulle part. Il y a bien à l'intérieur de la société taïwanaise, effectivement, une inquiétude, une peur. Et il y a par ailleurs aussi une solidarité assez importante dont on fait montre à l'égard de Hong Kong. D'ailleurs, je veux dire, elle est parfaitement visible dans la ville, dans l'espace urbain.
Bien sûr, il y avait beaucoup de Hongkongais présents au meeting de Tsai Ing-wen le vendredi, le dernier meeting. J'ai pris l'avion, c'était un Taipei-Hong Kong. J'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés en novembre, au moment des élections. Il y a une sorte de tourisme électoral. Il y a des liens qui se tissent. Et notamment, il y a eu ces nouveaux conseillers qui ont été élus au conseil de district à Hong Kong, sont venus observer les élections. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a une sorte de communauté de destin. Après, il faut aussi comprendre que Taïwan, aujourd'hui, et c'est là où Tsai Ing-wen, elle est en phase avec sa population, je veux dire, majoritairement, les gens considèrent que Taïwan est un pays indépendant. Sauf que les circonstances ne permettent pas de le dire haut et fort, de le proclamer, etc. Mais vous allez à Taïwan, et c'est juste la comparaison avec la Chine, et vous saute aux yeux. C'est-à-dire que vous êtes dans une société qui a été marqué par des colonisations successives. Vous avez une présence des autochtones. Enfin, c'est 2% de la population, ouais. Mais c'est symboliquement très très fort parce que ça amène des réflexions, des débats sur le post-colonialisme, sur c'est quoi une minorité ethnique. Ils refusent le terme que les Chinois utilisent pour minorité ethnique, qui est souvent très folklorique en fait. Ils regardent ce qui se passe au Xinjiang. Ils sont beaucoup plus attirés forcément par Hong Kong, mais voilà, le Xinjiang aussi est présent.
On va venir à cette question de la dimension ethnique justement dans ce nationalisme taïwanais. Mais quand on regarde les choses, François Bougon, le candidat du Kuomintang, il a quand même rassemblé 38% des suffrages, c'est-à-dire 5,5 millions de voix. Qui sont ces nationalistes chinois qui vivent à Taïwan et comment est-ce qu'on peut comprendre que 70 ans après la guerre civile, la fuite de Chiang Kai-shek sur l'île, il y a encore autant de partisans d'un retour quand même dans le giron continental? C'est pas rien.
Ils sont 5 millions. Ils sont partisans d'un. Ils se sentent à la fois taïwanais et chinois, et je pense que le KMT va évoluer aussi. Enfin, je pense qu'ils peuvent pas continuer à tenir ce discours. Mais vous avez des nationalistes chinois. Vous avez des gens qui considèrent que oui, la République de Chine. Alors c'est pas le même concept que Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen, elle dit, il y a une République de Chine, Taïwan. Donc elle est circonscrite par cette île, etc. Eux, leur discours, c'est quoi? C'est de dire, il y a une République de Chine, et un jour, normalement, on devrait avoir toute la Chine. Et ils restent sur cette idée-là, en fait.
Ils pensent qu'ils vont absorber la Chine continentale?
Il y a cet héritage-là qui reste quand même. Alors, comment ça, eux, ils sont pour un rapprochement avec la République populaire de Chine. Ah. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils sont, mais ils sont pas pour une unification pure et simple selon les termes de Pékin. Tout le monde rejette majoritairement à Taïwan la proposition d'un pays de système qui alors est en place à Hong Kong. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas vivre sous les termes de Xi Jinping. Même les partisans du Kuomintang. Après, vous avez une diversité au sein du Kuomintang. Je pense que la jeune génération, l'arrière-petit-fils de Chiang Kai-shek et ce genre de personnes au sein du Kuomintang vont être, à un moment donné, vont faire évoluer aussi la situation. Et là, vous me dites alors c'est pourquoi des gens votent Kuomintang. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont les héritiers, que leurs parents sont venus du continent, etc., et qui ont un lien très fort avec la Chine. Ça, faut pas l'oublier en fait. C'est pour ça que cette société elle est diverse, elle est très complexe, elle est beaucoup plus complexe, diverse, etc., que ce que dit Xi Jinping. Et c'est pour ça que le discours de Xi Jinping, il n'arrive pas à... Personne n'en veut, en fait. Cette espèce de vision totalement centralisée sur le grand nationalisme Han. C'est incompréhensible à Taïwan aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il veut, Xi Jinping? Est-ce que son ambition, c'est de rattacher Taïwan? Et est-ce qu'il a un plan pour ça?
Son plan, il l'a rappelé, et ça a été aussi un des éléments de la pré-campagne. C'est quand, le 2 janvier 2019, il fait un discours à l'occasion du 40e anniversaire de l'envoi par Pékin d'une lettre à Taïwan qui propose l'unification tout en renonçant à la à confrontation militaire. Et à ce moment-là, il fait un discours, alors que sous Hu Jintao, Hu Jintao évoquait très peu un pays de système. Il l'avait un peu oublié, il disait, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on parle, etc. Et Xi Jinping, qu'est-ce qu'il fait en janvier 2019? Il dit, ça sera un pays de système, et de toute façon, un jour ou l'autre, on emploiera la force si ça marche pas. Et ce qu'a fait Tsai Ing-wen, et ça a été un coup de maître politique, dès le lendemain, elle lui répond, elle lui dit non, désolé, on n'en veut pas. Enfin, un pays de système, c'est pas possible. Nous, on défend la démocratie, on défend un pays qui s'appelle Taïwan, les gens bénéficient de démocratie, de liberté d'expression. Et ça, en fait, ça explique aussi, Tsai Ing-wen est très claire. Le Kuomintang est embarrassé par la position par rapport à la Chine.
Alors, justement, regardons ce qu'il y a de différent du côté de Taïwan et dans ce nationalisme, du coup, taïwanais. Vous évoquiez tout à l'heure la question ethnique. Vous rappeliez que Xi Jinping, c'est ce héros de cette vision ethno-nationaliste centrée sur les Han, qui est donc l'ethnie largement majoritaire et qui fait assez peu cas de la diversité ethnique. On voit bien sûr ce qu'il en est du côté de cette minorité turcophone du Xinjiang avec les Ouïghours, alors que vous expliquez dans votre papier, François Bougon, que Tsai Ing-wen, elle est beaucoup plus ouverte en termes de diversité ethnique. Expliquez-moi justement l'importance que ça a aujourd'hui dans son discours et l'importance que ça a aussi à l'intérieur de la société.
Alors, c'est la question des autochtones qui est intéressante. C'est-à-dire, bon, comme je le rappelais, ça ne représente que 2% de la population, un peu plus de 500 000 habitants. Donc on pourrait se dire, ce n'est pas très important. Mais en fait, symboliquement, pourquoi c'est important? Ils ont 6 représentants au Parlement. C'est des questions qui traversent énormément la société taïwanaise. Alors, peut-être la société intellectuelle, enfin en tout cas les hommes politiques. Elle, Tsai Ing-wen, ce qu'elle a fait, sa grand-mère était autochtone, était d'une des 16 ethnies reconnues à Taïwan, et elle a fait beaucoup pour la prise en compte de la question autochtone. Elle a, en 2016, juste après son élection, comme elle s'était engagée durant la campagne, elle a demandé pardon officiellement en utilisant les langues autochtones aux autochtones taïwanais, c'est-à-dire qui ont subi depuis l'arrivée des Espagnols au XVIe, XVIIe siècle, une vague de colonisation à Taïwan. Et la plus récente, c'est la colonisation, on peut le dire, en fait. Alors ça, c'est une vision qui pourrait être considérée comme postcoloniale, mais le KMT, quand le KMT arrive à Taïwan en 47, puis en 49, c'est une colonisation. Vous avez plus d'un million de personnes qui viennent du continent, qui n'avaient aucun lien avec cette île et qui arrivent, qui trustent les postes de pouvoir, qui ont mené une campagne de répression terrible à partir de 47. Et donc, ça a été vécu aussi comme une colonisation par les habitants, les Taïwanais. Mmh. Peut-être des Taïwanais qui sont venus de Chine au XVIIe siècle, mais de fait, ça a été vécu comme une colonisation. Donc, la question des autochtones, elle permet de remettre au centre du débat à la fois intellectuel et politique à Taïwan ce genre de considération. Donc, elle a compris qu'il fallait le faire. Donc, elle a lancé un comité de transition, un comité de réflexion sur les erreurs historiques avait été commise, de justice transactionnelle. Alors ça coince sur la question des terres, qui est une question importante en fait, parce que comment rendre des terres dans certains endroits? Certains endroits ce sont des parcs nationaux, dans d'autres ce sont des sociétés privées. Donc voilà, il y a toute cette question-là qui est aussi pendante. Mais ce que moi j'ai senti en étant à Taïwan, c'est il y a aussi toute une génération de jeunes activistes autochtones qui essayent de s'impliquer. Alors, ça s'est traduit notamment à l'élection législative par la première élection depuis très très longtemps, enfin la première fois d'ailleurs, d'une autochtone qui a été adoubée par le DPP. Parce qu'en fait, paradoxalement, les régions autochtones votent traditionnellement pour le KMT dans un système qui hérite d'un système clientéliste en fait, et qui a toujours été bien trusté par le KMT.
Donc, alors on même assiste, que c'est précisément la dernière vague, comme
voilà,
vous le disiez,
mais
de colonisation.
On assiste là aussi à des transformations. Et voilà, ça montre cette société vibrionnante, en fait. Ouais. Voilà.
François Bougon, on va parler dans un instant des États-Unis. Je vous propose une transition avec Donald Trump. On se souvient que Donald Trump avait téléphoné à la présidente taïwanaise. Ça avait provoqué l'ire de Pékin, qui était absolument furieux. On s'était dit, voilà, on voit que Donald Trump essaye d'appuyer là où ça fait mal. Depuis, qu'en est-il? Est-ce que les États-Unis essayent toujours d'activer ce levier taïwanais, ou c'est plus une question?
Non, c'est un élément important, c'est-à-dire le soutien américain et la protection américaine, de fait, est un élément important dans la capacité aussi de la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, d'avoir une posture défensive.
Ça apparaît beaucoup dans ses discours?
Ça n'apparaît pas, mais de fait, c'est présent. C'est-à-dire que les États-Unis protègent Taïwan et empêchent la Chine de mettre son projet de réunification par la force à terme, en fait. Donc, après, ça n'était pas forcément présent dans la campagne. Mais en fait, les jusqu'au boutistes du DPP, à un moment donné, se sont dit, allons-y, puisque Trump, si on déclare l'indépendance, Trump va nous aider. Mais elle, Tsai Ing-wen, est beaucoup plus modérée et, comme je le disais, beaucoup plus intelligente politiquement. Elle sait qu'elle peut pas aller jusque-là, en fait.
Merci beaucoup, François Bougon, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart, que vous avez notamment signé dans la tête de Xi Jinping, c'était Au Seuil, mais aussi plus récemment La Chine sous contrôle, Tiananmen 1989, qui était paru Au Seuil également.
Non, Actes Sud le premier.
Et désolé, le Seuil, voilà. Bon. Merci infiniment, François Bougon.
梦秀红，望我隔世，我是否人情彻如空？乌鸦贪黑，命运隔灰，至少蝼蚁刺青在我脸，两袖波澜，花雨浸染。
C'est avec cette valse des couleurs d'une chanteuse taïwanaise, Yen Ting Lo, que l'on ferme cette page. On va regarder maintenant du côté des États-Unis. Présidentielle 2020, y a-t-il un démocrate ou une démocrate pour vaincre Trump?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler donc de cette présidentielle qui se tiendra le 3 novembre prochain. D'ici là, le Parti démocrate aura désigné son ou sa championne. Les primaires débuteront dans une quinzaine de jours et les principaux candidats se sont retrouvés cette semaine pour un dernier débat télévisé.
Moi, je laisserai des troupes au Moyen-Orient pour patrouiller dans le Golfe Persique. Quelques troupes seulement là où nous sommes. Et je pense que c'est une erreur de retirer nos troupes qui sont là-bas pour combattre le groupe État islamique.
Joe et moi avons écouté ce que Dick Cheney, George Bush et Rumsfeld avaient à dire. Je pensais qu'ils mentaient. Je n'y ai jamais cru. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher cette guerre. Joe a vu les choses autrement.
Donc une femme peut-elle battre Donald Trump? Regardez les hommes sur ce plateau, à eux tous, ils ont perdu 10 élections. Les seules personnes ici qui aient gagné toutes les élections auxquelles se sont présentées sont les femmes.
Dans l'ordre, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, c'était sur CNN. Lequel sortira vainqueur de cette investiture démocrate? Et d'ailleurs, par où le parti doit-il attaquer? Par le centre, par l'aile gauche? Voilà ces questions sur lesquelles on va se pencher avec Laurence Nardon et Lauric Henton. Toujours évidemment le vendredi en partenariat avec Le Monde. Marc Simon, on va commencer avec vous. Alors, il y a évidemment cette investiture démocrate, mais il y a aussi, bien sûr, un autre événement là qui arrive maintenant dans le calendrier, c'est bien sûr le procès qui va s'ouvrir, le procès sur la destitution de Donald Trump. Alors on sait bien qu'il a très peu de chances, voire aucune chance d'aboutir. Il n'empêche qu'il va avoir des conséquences. Alors peut-être sur Donald Trump on en parlera, mais aussi sur le camp démocrate. Ne serait-ce que parce que deux des trois favoris, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, vont être bloqués au Sénat pendant que commencera dans l'Ohio le début de cette course à l'investiture.
Oui, je ne sais
la
pas.
La turbulence va être forte pour le camp démocrate aussi.
Oui, je ne sais pas si ce sera déterminant, d'autant que pour le moment, la procédure d'impeachment qui va être lancée joue plutôt pour la popularité de Trump. Mais moi, je vais plutôt me concentrer sur la personnalité de Biden. C'est quand même extraordinaire. Il continue à faire la course en tête. Il a été 37 ans sénateur, 8 ans vice-président d'Obama. Donc on ne peut pas dire qu'il incarne vraiment le changement. Et c'est paradoxalement sa force. C'est peut-être le pari gagnant pour le Parti démocrate parce que, il est à même de gagner une partie d'un électorat républicain, centriste, modéré, déçu par les outrances de Trump. Il est clé aussi par rapport à l'électorat populaire dans ces États de la Rust Belt, ces ex-États industriels qui ont été décisifs pour la victoire de Trump alors qu'il était devancé largement par Hillary Clinton au niveau du vote populaire. La question, c'est de savoir si dans cette Amérique toujours plus clivée, après ces années de Trump, le « à gauche toute qu'incarnent Elizabeth Warren et Bernie Sanders n'a pas plus de chances, notamment vis-à-vis de l'électorat jeune, des minorités, vis-à-vis de l'électorat traditionnellement démocrate. Et là-dessus, on retrouve le dilemme de classique. Est-ce qu'il faut jouer au centre ou à gauche toute? Alors, dans les primaires, on se fait plaisir. On est très identitaire. La question, c'est que pour gagner, il faut avoir les autres.
Bon, ça va être toute la question qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Laurence Nardon, sur la question de l'effet de cette procédure d'impeachment dans le camp démocrate, est-ce que vous pensez qu'il va avoir un effet ou pas?
Oui, alors depuis plusieurs mois, il y a comme deux trains qui foncent en parallèle dans la politique américaine. Le train de la campagne électorale qui se joue principalement du côté démocrate, hein, puisque il y a une primaire, alors que du côté républicain, il n'y en a pas. Et puis, en parallèle, sur d'autres rails, le train de l'impeachment qui fonce aussi, comme vous l'avez dit, sans beaucoup sans aucune chance d'aboutir à une véritable destitution du président et encourageant sans doute sa popularité puisqu'il se présente comme une victime. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, ça va peut-être
se percuter. Ça va peut-être se percuter,
puisque d'abord les débats sur l'impeachment polluent un peu les débats de la campagne, c'est-à-dire que est-ce que les candidats, il faut observer, parlent très peu de l'impeachment. Ils essayent de développer leur programme pour être vraiment à fond sur les sujets, et ils essayent de pas trop parler de cet impeachment. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les deux candidats très radicaux
les deux de l'aile gauche,
qui sont sénateurs, vont être empêchés d'aller dans l'Iowa dans les semaines qui viennent, puisque dans le processus des débats de l'impeachment qui vont commencer mardi, et dont on ne sait pas, on va y revenir, s'ils vont être très courts ou très longs, eh bien les sénateurs sont tenus d'être présents au Sénat, 6 jours par semaine, pas de téléphone portable, et donc Sanders et Warren vont être extraits totalement, enfin ils ne sont pas les seuls, hein, parce qu'il y a Klobuchar et Michael Bennett qui sont aussi sénateurs.
Non mais dans les quatre favoris, c'est les
ils
deux qui vont être bloqués.
Ils vont pouvoir travailler le terrain dans l'Iowa et les autres États.
Et le New Hampshire qui sera derrière. Ouais. C'est important ça, parce qu'on sait, d'abord, évidemment, il faut bien commencer avec une bonne dynamique, et on sait combien il faut aussi être sur le terrain pour espérer remporter des voix.
Alors, il faut être sur le terrain. Amy Klobuchar aurait pu bénéficier d'une petite percée, parce qu'elle est aussi du Midwest, c'est la sénatrice du Minnesota, donc elle a aussi passé pas mal de temps dans l'Iowa. C'est quelqu'un qui est un peu moins brillant, mais qui fait le boulot et qui pouvait espérer un petit rebond là dans l'Iowa. C'est là où c'est ça ou rien, quoi, pour elle. Donc c'est vrai que ça peut avoir un impact qui peut profiter à Biden, qui remonte déjà dans ces états-là, malgré le fait que c'est pas encore lancé. Et ça peut profiter un petit peu à Buttigieg, même si Pete Buttigieg, le maire de South Bend dans l'Indiana, donc qui est pas très loin,
qui est mesuré à 8% aujourd'hui dans les sondages,
oui, qui a été quand même très haut, il a été en tête, hein, ce qui a été assez surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. Il a été en tête dans l'Iowa. Après, bon, là il a fini de culminer, parce qu'il y a toujours des vagues, hein. Elizabeth Warren, c'est pareil, elle a eu le sommet de la vague il y a quelques temps, et c'est Sanders qui est repassé devant. Mais l'impact des deux prochaines semaines est très difficile à lire, d'autant que dans l'Iowa comme dans le New Hampshire, ça se joue dans un mouchoir. L'impact va être essentiellement symbolique. Qui sort en premier, c'est pas forcément qui va rafler les délégués, parce qu'ils vont être répartis de manière assez proportionnelle, enfin plus ou moins proportionnelle. Donc en fait, l'Iowa, arithmétiquement, n'a aucune espèce d'importance.
C'est pas aussi décisif qu'on le dit ?
Mais pas du tout, parce que la Caroline du Sud a beaucoup plus de délégués. Donc c'est ce qu'on appelle le momentum, c'est une forme de dynamique. Le total des délégués donnés à l'issue de l'Iowa et même du New Hampshire, par rapport au Super Tuesday de début mars, c'est vraiment microscopique. Mais il y a un effet de récit, donc un effet médiatique, un effet de communication, un effet aussi psychologique. Et dans les modèles mathématiques et statistiques qui commencent à pulluler maintenant, c'est vrai que si Biden, par exemple, sort en tête dans l'Iowa et le New Hampshire, il est assuré statistiquement d'avoir l'investiture. Ensuite, c'est toute la perturbation de si ouais. C'est pas Biden.
Ouais. Alors, si on reprend... Marc, tu voulais
dire. Justement, la question, c'est sur Biden. Comment vous expliquez que finalement, voilà, envers et contre tout, il fait la course en tête.
Laurence Nardon.
J'aurais envie de répondre que Biden, c'est un peu Jacques Chirac en 95. C'est-à-dire que par rapport aux autres dans le camp démocrate, il a une aura de sympathie. Même si on le juge un peu vieux, il fait des grimaces, c'est un peu un clown et il est un peu, il fait des gaffes sans cesse. Mais
il
ça
est
le
pas
rend
très bon dans les débats, c'est vrai en plus.
Il est fatigué, c'est bon, mais il est sympa. Je sais pas si, je pense que c'est le ressenti de beaucoup de démocrates.
Et
en plus, il est rassurant.
Exactement.
Et donc, je pense que c'est son gros plus dans cette campagne par rapport à Sanders et à Warren qui font peur et qui en plus divisent le camp radical en deux. En fait, si Warren se retirait de la course et ou Sanders à la limite, mais enfin comme il est devant Warren, ça va plutôt se passer dans l'autre sens. Et qu'elle demandait à ses fans, ses électeurs, de reporter leur voix sur Sanders, je pense Biden serait un peu plus inquiet.
Juste, je rappelle pour les auditeurs, hein, aujourd'hui, les quatre principaux candidats qui se détachent dans les sondages, Joe Biden, qui est à peu près, j'ai regardé hier encore, à 29% d'intention de vote, à peu près, Bernie Sanders, à peu près 23%, Elizabeth Warren, 14%, et Pete Buttigieg,
8%.
Buttigieg. Non ? Comment vous dites ?
C'est entre les deux, c'est Buttigieg.
Bon, voilà.
C'est entre Edge et Edge. C'est le.
D'accord. Bon, j'étais pas loin. On n'est pas les seuls à avoir du mal. Hein. Même aux États-Unis, j'ai regardé hier des vidéos. Au début, en tout cas, ils ont eu beaucoup de mal pour la prononciation de son patronyme. Laurie Kenton, vous voulez réagir?
Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a cette idée d'un Biden très centriste, rassurant, etc., et de Warren Sanders plus à gauche. Alors, Sanders est plus à gauche que Warren. Justement, c'est pour ça que Warren a perdu un petit peu de voix. C'est parce qu'elle a essayé de concilier un petit peu les deux. Donc, ceux qui sont le plus à gauche, on dit, ouais, enfin, c'est pas du vrai, alors que Sanders, c'est du vrai, quoi. C'est du garanti.
C'est du socialiste.
Voilà, non, mais c'est du costaud, c'est du solide, c'est du sans concession. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, et ça se fait beaucoup dans l'Iowa, c'est les intentions de vote en deux, c'est-à-dire le deuxième choix. On demande aux électeurs leur premier choix, et comme c'est des caucus, c'est extrêmement folklorique, s'ils n'ont pas suffisamment de pourcentage lors des caucus, ils doivent se reporter sur le deuxième candidat. Donc on leur demande un deuxième choix. On pourrait penser que les fans de Warren vont vers Sanders. Eh bien, pas tant que ça. Ils vont assez également vers Biden et vers Sanders. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de deuxième choix de différents candidats, autant Biden que Sanders, qui se reportent sur Warren. En tout cas, il y a un mois. Et ce qui est intéressant également, le dernier point, c'est de regarder les sondages en one-on-one. C'est-à-dire quand on regarde Biden contre Trump, Sanders contre Trump, Warren contre Trump.
Et alors, ça donne quoi ?
Eh ben, on pourrait avoir peur, justement, du côté un peu trop extrémiste de Sanders contre Trump. Pas du tout. L'un et l'autre, Biden et Sanders, font à peu près jeu égal. Biden légèrement plus que Sanders contre Trump. Et Warren, en tout cas, par exemple, en Caroline du Sud, sa faiblesse, c'est les femmes. Les femmes votent beaucoup plus volontiers, un peu plus volontiers, Biden et Sanders contre Trump, et un peu moins contre Warren Trump.
Laurence Nardon.
Alors, je voudrais compléter ce que dit Lauric sur deux points à propos d'Elizabeth Warren. Le premier, c'est que, Lauric, vous expliquez que sa chute dans les sondages est due au fait qu'elle est un peu middle of the road par rapport à Sanders, qui est beaucoup plus à gauche.
Et elle a rectifié surtout, elle a rectifié son plan.
Mais je pense que quand on écoute les gens aux États-Unis, c'est que ils disent beaucoup qu'elle fait peur parce qu'elle est beaucoup trop radicale, ses projets sont beaucoup trop précis ou imprécis d'ailleurs sur la santé, mais ça c'est un autre sujet. Et je suis très étonnée quand on entend ça, parce que effectivement elle est moins à gauche que Sanders. Lui se définit comme un socialiste, alors qu'elle se définit comme une capitaliste qui veut simplement remettre en place un capitalisme juste comme dans les années 50. Elle juge qu'il a été dévoyé depuis les années 80 et les dérégulations libérales. Et donc c'est assez étonnant de voir que elle fait plus peur que Sanders, alors qu'en réalité elle est moins radicale. Ça c'était mon premier point. Et le second que je trouve très intéressant, c'est les rapports de Warren et du féminisme. Parce que bon, donc elle se présente comme une femme, elle l'a rappelé dans le débat, elle a joué la carte femme, comme disait Trump lors du débat. Mais en réalité, elle n'est pas jugée très féministe, ou même elle n'est pas jugée assez féministe par les instances féministes aux États-Unis, et notamment le Now Women, la grande institution féministe, National Organization for Women, voilà, je cherchais le mot, qui s'appelle donc Now, qui, il y a quelques années, l'avait mal jugée parce qu'elle avait écrit un ouvrage dans lequel elle disait que les femmes avaient du mal à s'en sortir et que la solution qu'elle proposait, je vais être plus synthétique, la solution qu'elle proposait, c'était rétablir l'égalité pour tout le monde, pour faire monter les femmes, et non pas de faire des politiques directement féministes. Et donc c'était jugé
par orthodoxe. Mais de toute façon, elle a pas besoin d'afficher de façon très active son féminisme. Elle est une femme. C'est-à-dire qu'un peu comme Barack Obama sur la question noire, il était un noir, donc il n'y avait pas forcément... Il a eu le droit au même reproche
des associations. Il n'était pas assez noir. Parce qu'il était kényan et pas descendant d'esclaves. Ouais. Il était métis, il avait été élevé dans un monde qui était plutôt blanc. Donc toute la partie 2007 de la campagne d'Obama, c'était est-ce qu'il est black enough?
Mais de toute manière, je pense pour ma part que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le vote des femmes, c'est pas parce qu'on est noir qu'on a le vote des noirs. Regardez Biden, c'est celui qui fait la course en tête dans la communauté afro-américaine aux États-Unis.
Et pas Kamala Harris, Cory
Booker,
qui ont tous les deux abandonné.
Pour revenir à la question que tout à l'heure posait Marc Sémo, et pour regarder un peu les équilibres qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur du Parti démocrate, mais ceux qui sont des démocrates et donc qui vont voter durant les caucus. Si on fait un total là, des intentions de vote, en gros Warren, Sanders, donc l'aile gauche, on obtient 37% par rapport au chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Si on fait un total Buttigieg, je dis bien, Biden, on obtient 37%. C'est-à-dire égalité totale.
Ajoutons Klobuchar et on a un léger...
Alors j'ai fait exprès justement de ne pas les ajouter pour vous dire que là, l'impression que ça donne avec les quatre favoris, c'est qu'on a deux blocs parfaitement équilibrés. Alors est-ce que c'est réellement la situation, ma question, Laurie Kendo, et comment ce rapport de force a évolué ces dernières années à l'intérieur justement de ce monde démocrate? Qui veut commencer?
Ladies first.
Allez,
je vais être
Laurence,
rapide. Vous avez raison. Il y a une redéfinition, une recomposition idéologique au sein du Parti démocrate aujourd'hui qui n'est pas achevée et qui est le gros problème de cette campagne, puisqu'il n'y a pas un seul candidat qui serait en plus merveilleusement jeune et charismatique qui se met en place sans fêlure idéologique. Vous avez la remise en cause du consensus libéral au sens économique du terme depuis la campagne de Warren en 2016. Et qui n'est pas encore réglé aujourd'hui, avec des candidats modérés sur les questions économiques et des candidats radicaux sur les questions économiques. Tout ceci se panachant de plus ou moins de progressisme sur les questions sociétales. Là, je pense que les choses sont plus distribuées. Mais je laisse Laurie poursuivre.
Et puis Marc Sémo.
On parle beaucoup d'une forme de polarisation et d'un parti, l'appareil et les militants qui sont, et alors notamment ce qu'on appelle la twittosphère démocrate, donc qui parle beaucoup, mais qui est finalement pas très nombreuse, mais qui en fait infléchit le récit.
Mais qui n'est pas forcément représentatif
non, pas du tout.
De l'ensemble.
Il y a une majorité silencieuse qui est beaucoup plus modérée. Et tout ce petit monde-là tire le parti vers la gauche. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au moment de voter, ce n'est pas tant le cas que ça. Et finalement, quand on regarde l'histoire des primaires démocrates, on a toujours plus ou moins un candidat qui est plus à gauche ou nettement plus à gauche, et un candidat qui est plutôt centriste. Quand on regarde les primaires de 84 ou même 2004 avec Howard Dean et John Kerry, c'est exactement le même type de distribution, mais c'est pas forcément dans les mêmes rapports de force. Là, ce qui est assez surprenant, c'est que pour l'instant, c'est encore très équilibré.
Marc Sémo.
Oui, et la cassure, elle est aussi, outre sur la question économique, sur la politique internationale. Parce que Joe Biden explique globalement... Trump a été une parenthèse. On revient à nos vieilles alliances, on revient à notre vieille stratégie, ce qui est comme assez démago, parce que, de fait, l'amorce, ce qu'a été la politique de Trump, avait déjà été largement amorcée par Obama. Et puis, Buttigieg, j'arrive pas à le prononcer non plus. Et lui aussi, sur une ligne, on maintient nos forces en Irak, au Moyen-Orient, on garde des forces spéciales. Enfin, les deux sont sur une continuité en politique étrangère très marquée, qui s'oppose justement à Warren et à Bernie Sanders, qui sont on se retire, on arrête tout, on revient à la maison, un isolationnisme de gauche presque caricatural.
Laurence Nardon.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Cette remise en cause du consensus libéral sur les questions économiques, en fait, il est presque parallèle, il est presque similaire à la remise en cause du consensus internationaliste, multilatéraliste, en politique étrangère, oui. En fait, le repli qu'incarnent Sanders et Warren, il se fait sur les deux tableaux.
On reviendra un peu sur la politique extérieure tout à l'heure, Marc Sémo. Si on poursuit un tout petit peu le ricaneton sur les difficultés et les défis de ce parti démocrate, on se souvient de cette thèse défendue par l'historien Marc Lilla, notamment dans son livre qui était qui avait été traduit en français, La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, qui revenait sur la défaite d'Hillary Clinton en 2016 et qui liait, lui en tout cas, à cette prévalence des politiques identitaires. Lila, lui, disait il faut que le parti démocrate élargisse assez largement sa base, il faut revenir sur des thèmes beaucoup plus globaux, beaucoup plus transversaux, beaucoup plus universalistes. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, c'est ce qui a péché et qui explique en partie, enfin même largement, c'est ce que vous avez dit Lila, la défaite d'Hillary Clinton. Et est-ce qu'on a tiré les leçons de tout ça?
Alors, il y a eu une déperdition de voix au centre qui était liée en partie à ce que dit Marc Lila, ça c'est vrai, et en partie à quelque chose qui est plus difficile à mesurer, qui est le côté urticant d'Hillary Clinton auprès de l'électorat républicain, de l'électorat modéré. C'est-à-dire qu'Hillary Clinton a un côté qui est pas forcément quantifiable, mais il y a des gens qui ne la supportent pas, et donc qui ont voté pour Trump, en sachant que Trump n'était pas un perdreau de l'année, ni un ange, ni quoi que ce soit, mais qui ont voté contre Hillary Clinton. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Et ça, c'est aussi autre chose qu'il faut prendre en considération, parce que c'est une déperdition de voix. Et donc, le candidat d'en face, sans forcément gagner en voix, se retrouve arithmétiquement devant, parce que le camp d'en face a perdu des voix. Il y a eu des déperditions de voix entre Obama 1 et Obama 2, et entre Obama 2 et Clinton, à peu près partout, et notamment dans la Rose Belt. Et c'est pour ça que, par exemple, à Détroit, Obama a perdu des voix, Clinton a perdu des voix par rapport à Obama, Trump a gagné quelques voix, mais finalement pas énormément, pas tant que ça. Donc c'est quand même assez à relativiser. Et donc, c'est pas tant des transferts de voix d'un camp à l'autre que des déperditions de voix. Alors c'est vrai, et on a pu le mesurer, que ces questions identitaires coûtent, notamment dans l'électorat blanc du Midwest, du Nord, et c'est en partie là que la différence se fait. Donc il n'y a pas forcément un seul facteur. Ce facteur-là peut être attribué, on peut attribuer à ce facteur-là la défaite de Clinton, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres facteurs, par exemple chez les Noirs, à Milwaukee et à Détroit, c'est aussi leur défection qui a coûté la victoire à Clinton. Donc il y a plusieurs facteurs, celui-là peut en être un.
Laurence Nardon.
Oui, je voulais commenter aussi sur votre question à propos de l'universalisme et des questions identitaires aux États-Unis. C'est la question, enfin, c'est ce que dit Marc Lila, c'est qu'on a péché par trop de politiques identitaires, identitaires n'ayant pas le même sens qu'en français, c'est-à-dire de politiques minoritaires, il faudrait dire en français. C'est toute la question de l'universalisme à l'américaine qui est très différent du nôtre, puisque c'est un pays qui a un rapport à la laïcité très différent du nôtre, puisque il s'est basé non pas sur une libération par rapport à la religion, mais au contraire une libération par rapport à la couronne britannique pour pouvoir vivre les religions qu'on voulait dans l'histoire américaine. Et aujourd'hui, ceci se double d'un immense respect pour les minorités hérité de l'histoire des droits civiques dans les années 60, et qui fait que aujourd'hui toutes les communautés sont par essence respectées. Alors les progressistes de la gauche américaine sont très en pointe sur les campus et ils sont très vocaux, très audibles sur la twittosphère. Ils représentent pas forcément tout le parti démocrate, mais c'est vrai qu'il y a y a un sujet, comme vous le disiez dans votre question tout à l'heure, qui n'est pas réglé aujourd'hui.
Oui, et puis c'est d'autant plus difficile que le parti démocrate, quand même, son ADN, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Or, aux États-Unis, il y a quand même cette spécificité qu'elles sont totalement corrélées aux facteurs ethniques, raciaux. Donc, à partir du moment où vous affichez le fait que vous luttez contre les inégalités sociales, c'est extrêmement difficile de faire totalement fi des considérations ethniques, Laurie Kenton.
Pas forcément, parce que ça dépend comment on les oriente. Par exemple, dans la Rose Belt, il y a des États où il y a finalement très peu de minorités, et donc dans le Wisconsin par exemple, il y a quelques poches avec des minorités, essentiellement des Noirs, il y a assez peu d'Hispaniques, et donc les questions économiques se posent d'abord pour les Blancs, les Amérindiens aussi, mais c'est des toutes petites poches et puis ça pèse pas grand chose électoralement. Non, c'est surtout une question de ressenti, de communautarisme, de politiquement correct, etc. qui peut peser. Et là, c'est pas Lila, c'est plutôt David Goodhart avec les Anywheres et les Somewheres qui s'applique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et Goodhart explique que la différence est une différence notamment de priorité des élites. Donc ces questions de communautarisme, etc., c'est plutôt des préoccupations des élites, alors que en dessous, on s'en préoccupe beaucoup moins de ces questions-là. Et quand on voit que l'agenda est plutôt dicté par les élites, les préoccupations des élites, on a tendance à s'en détacher parce qu'on s'en sent exclu.
Le livre de Godard qui a aussi été traduit, mais je me souviens plus du titre en français. C'était pas du tout Les gens de quelque part et Les gens de nulle part, c'était autre chose. Mais
c'est The Road to Somewhere en anglais, David Goodhart.
On va regarder la traduction en français. 11h44 minutes, on place à notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace le vendredi. On choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux. Assis.
Qui nous est présenté par Hélène Lefrançois. Bonjour Hélène.
Bonjour Florian.
Et le dessin du jour illustre ce décalage entre l'image que renvoie Donald Trump et ce qu'on attend d'un président.
Oui, les Américains ont laissé les clés de la Maison Blanche à un drôle d'animal politique. Donald Trump a eu l'occasion de le montrer à de nombreuses reprises depuis son élection. Et il ne serait pas surprenant qu'un jour, des journalistes d'investigation américains publient un livre du genre « Un président ne devrait pas faire ça ». Ça pourrait aussi être le titre de cette caricature, croqué par le dessinateur de presse américain Joel Pett le 14 janvier dernier. Ce dessin souligne tout ce qui cloche dans le comportement de Donald Trump. Avec sa couronne sur la tête, le milliardaire se prend pour le roi du monde. C'est un roi colérique, on le voit sur son visage, et imprévisible, qui se précipite dans tout ce qu'il entreprend. Il a littéralement le feu aux fesses. Dans sa rage, il emporte un fil barbelé, un bout du mur qu'il construit à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, argument phare de sa campagne de 2016 et symbole de sa politique migratoire controversée. Tel un barbare, Donald Trump brandit une torche d'une main et tient dans l'autre une pique avec la tête de Barack Obama au bout. Le dessinateur reprend ainsi le cliché raciste de l'homme africain sauvage, alors que Donald Trump a largement contribué à nourrir les théories sur la citoyenneté de l'ancien président démocrate. Car en plus de faire n'importe quoi, Donald Trump dit n'importe quoi. Comme l'illustrent les petites bulles de dialogue, le milliardaire excelle dans l'art de dire tout et son contraire, et tel l'oiseau bleu de Twitter qui fiante, il utilise frénétiquement le réseau social, souvent pour déverser sa rage. Mais alors, que pensent les Américains de tout ce cirque ? Parfois, nous devons simplement faire confiance à la sagesse, au bon sens et au discernement solide de nos dirigeants élus, s'exclame un citoyen américain. On le sent inquiet, on l'espère ironique. À ses côtés, une femme tient un journal sur lequel l'Iran fait les gros titres. La politique étrangère de Donald Trump est illisible, mais l'électorat américain n'a d'autre choix que de lui faire confiance, ou du moins d'attendre que la présidentielle de 2020 mette éventuellement fin à ses responsabilités.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois. On peut retrouver évidemment le dessin dont vous nous parlez sur le fil Twitter de Culture Monde. Peut-être une réaction avec nos invités, Laurie Kenton, Laurence Nardon, et peut-être en particulier sur la question, justement, et on avait dit qu'on l'aborderait, de la politique extérieure. C'est vrai que pendant le débat télévisé entre les démocrates, ça a été très présent, c'est évidemment très fort dans l'actualité. Est-ce que ça veut dire que dans la campagne à venir, ça sera aussi très fort, sachant que c'était pas si important que ça lors de la précédente élection? En tout cas, ça s'est pas joué sur ces enjeux-là. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette fois, cette campagne se joue sur des questions de diplomatie, de politique extérieure, et puis réaction libre. Allez, Laurence Nardon, commencez avec vous.
Je ne pense pas que les questions de politique étrangère seront au centre des débats de la campagne, j'ai envie de dire comme d'habitude, comme vous le disiez.
C'était fort pendant le débat démocrate, là, cette semaine.
Oui, mais ça n'avait pas été le cas dans les débats précédents.
Mais justement, est-ce que ça risque pas de monter dans les mois qui viennent?
Surtout au gré de l'actualité internationale.
Que, bah, c'est ça, en fait. Ça a peut-être été le cas cette fois-ci parce que il y a eu ces tensions vraiment très vives avec l'Iran dans les dernières semaines. Mais je pense que
c'est conjoncturel.
C'est conjoncturel, ça pourrait retomber à moins que la situation ne se dégrade réellement, bien sûr.
Laurie Kenton.
Il faudrait de toute façon, c'est un peu le grand drame des spécialistes des relations internationales dans les questions d'élections américaines, c'est que ça pèse généralement assez peu par rapport aux questions intérieures et notamment aux questions économiques. Donc là, la question de la santé, c'est la principale préoccupation. La question des emplois, c'est aussi quelque chose qui est très présent.
C'est ce que montrent les sondages d'opinion.
Ah oui, d'accord. Oui. Alors d'accord. Cette fois-ci et globalement, les seules fois où les questions de politique étrangère sont en haut des listes, c'est quand il y a du terrorisme, donc après le 11 septembre, ou au début de la guerre d'Irak. C'est là que les questions de sécurité, en réalité, plus que les questions de relations internationales, sont au devant de la scène. Sinon, c'est quand même assez mineur. Ou alors, c'est assez fort, mais avec des tas d'autres choses, dont l'éducation. Par exemple, et on sait qu'une élection ne se fait jamais sur les questions d'éducation, par exemple.
Maximo.
Oui, mais on peut compter sur les Iraniens dans le contexte actuel de tout faire
pour troller,
pour peser sur la campagne, y compris avec des attaques, alors restant limitées, je pense que là-dessus, ce qui est d'une certaine façon pour eux, ils savent très bien, un des moyens de faire perdre Trump. Et aussi dans cette campagne, est-ce que Trump n'a pas vis-à-vis des démocrates, alors là-dessus, Biden est peut-être le seul qui tient le choc, dire voilà, moi j'ai montré ce que je savais faire. Tenant compte du fait que l'assassinat de Soleimani était plutôt perçu, quand même en interne, comme une manière de rendre à l'Amérique, disons, la crédibilité de sa dissuasion. Donc là-dessus, est-ce qu'il n'a pas, tout comme Joe Biden, un gros avantage si les tensions continuent à monter au Moyen-Orient, de dire, voilà, y compris pour Joe Biden, je suis capable d'être un commander-in-chief.
Bah, il va le jouer comme
ce qui n'est pas le cas de Warren, Bernie Sanders ou même.
En fait,
Buttigieg, qui est le seul par ailleurs à avoir combattu
sur le terrain. Voilà. Hein
je pense effectivement, bon, ça va être discours contre discours. Donc Trump va mettre en avant ses résultats et le fait qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Bon, il va le dire. Et Biden lui dira, et ça c'est un grand plus dans son narratif à lui, que il connaît bien la diplomatie internationale, il était vice-président pendant 8 ans, et que on day one, le premier jour où il serait à la Maison Blanche s'il est élu, il sera en situation de calmer le jeu international. Et ça c'est la carte qu'il va jouer, c'est je vais rassurer et je serai à même de calmer le jeu international si vous m'élisez.
Laurie Kenton.
Et il a eu Ben Laden. Parce qu'il faut, il faut avoir des petites phrases comme ça.
Et Al-Baghdadi.
Non,
vous parlez de Trump.
Biden. Parce que quand on vote Biden, on vote Obama. C'est aussi la volonté pour les démocrates de revenir aux grandes heures d'un leader qui faisait rêver et qui a eu Ben Laden.
Voilà. J'étais sur le bilan de Trump, pardonnez-moi. Mais justement, quand il va falloir défendre le bilan de Trump, là, il y a aussi quelque chose sur lequel il va pouvoir appuyer, c'est le rapport de force avec la Chine. On vient d'avoir là l'annonce d'un nouvel accord avec Pékin. Ça fait des mois que ça dure, des mois qu'on attend. Trump va pouvoir dire aussi, regardez, moi, j'ai réussi à établir un vrai bras de fer que par ailleurs j'ai gagné avec Pékin.
Il y a quelque chose à dire, c'est que sur ces questions de commerce international, que ce soit avec la Chine ou sur le nouveau traité, la nouvelle version du traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, il y a un consensus bipartisan aujourd'hui. En fait, il y a un consensus bipartisan aux États-Unis aujourd'hui sur plus de protectionnisme pour protéger les classes moyennes américaines de la délocalisation des emplois, etc., qui d'ailleurs est due pour moitié à l'automatisation des emplois en réalité. Mais il faut savoir que hier, le Sénat a voté de manière bipartisane la nouvelle version de l'ALENA, donc ce traité de libre-échange nord-américain. Et donc, je pense que Trump va mettre en avant le fait qu'il tapait du poing sur la table avec la Chine et que c'est très bien. Mais finalement, ces projets sont également repris par la plupart des candidats démocrates. Enfin, Biden.
Oui, mais lui, ce qu'il va pouvoir dire, c'est regardez à l'époque d'Obama, ce déficit commercial avec la Chine, ça croissait. Avec moi, on obtient enfin un traité. C'est ce qu'il va dire.
C'est vrai.
Laurie Kenton, et puis ensuite Massimo.
Il y a deux petites nuances. La première nuance, c'est que Sanders lui trouve que cet accord ne va pas assez loin, alors que Warren dit que ça va. Donc là, on a une première nuance dans le camp démocrate. L'autre nuance, c'est qu'on a eu un certain nombre d'articles qui sont sortis, d'études économiques qui sont sorties, qui disent que finalement, ça va pas avoir un gros impact et que ça n'apportera ni croissance ni création d'emplois. Donc que finalement, c'est extrêmement limité. Mmh. Trump, lui, va communiquer sur, en gros, l'ignorance de l'électorat, dire j'ai eu une grosse victoire, regardez, ça fait la une. Quand on regarde les petites lignes, mais qui lit les petites lignes? Et donc, ça, finalement, il y a toujours la réalité économique et la perception de cette réalité, donc le récit, la mise en récit, et c'est ça qui va primer.
Maximum.
Alors, je voudrais revenir à propos de Biden, sur un peu en décalé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, boomerang, de l'affaire ukrainienne? Parce que, qui était quand même à l'origine de tout. Hein, c'est là-dessus qu'il y a l'abus de pouvoir de Trump qui essaie d'obtenir des informations sur le fils Hunter de Joe Biden et ses micmacmoches dans une société de gaz ukrainien. Est-ce que, quand même, y compris avec le débat sur l'impeachment, l'histoire ukrainienne elle-même, indépendamment de l'abus de pouvoir de Trump,
Joe Biden,
ne va pas monter éclabousser Joe Biden, qui couvrait le fiston.
C'est vrai, c'est possible. En théorie, mais en même temps, cette ligne d'attaque, elle est compliquée pour les républicains.
parce que leur président à eux, leur candidat à eux, est pas non plus blanc-bleu sur les histoires de corruption, de conflits d'intérêts, etc. C'est un petit peu comme... ce sera peut-être une ligne d'attaque pour les autres démocrates dans la campagne démocrate. Mais entre les deux... Biden et Trump, ce sera inopérant de la même manière que les questions de relations avec les femmes qui peuvent être portées contre Biden, le fait qu'il soit un peu tactile et qu'il soit conduit de manière un peu trop amicale. Dans les années 70, c'était un autre monde, je parle de Biden, les républicains ne pourront pas le lui reprocher non plus, parce que leur candidat à eux, évidemment...
Laurie Kenton.
C'est toujours une question de perception. Et donc, l'affaire ukrainienne, elle va de toute façon braquer les électeurs de Trump qui sont le plus versés dans tout ce qui est théorie du complot, etc., qui sont de toute façon convaincus que Trump est le nouveau messie et que les démocrates sont l'incarnation de l'antéchrist. Donc ça, de toute façon, ça va pas faire bouger les lignes. Ce qui va faire bouger les lignes, c'est qu'en pensent les indépendants. Les indépendants sont... alors. Pas vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'en gros, ils penchent plutôt côté démocrate, un peu côté républicain, il y a à peu près 10% d'indépendants. Mmh. Et le problème de ces indépendants, c'est que c'est eux qui vont faire basculer l'élection, et ce qu'on sait mesurer, c'est que ce sont les moins informés. Les plus informés aux États-Unis sont les plus partisans, et donc ceux qui sont déjà bien rangés dans un camp, et indéfectiblement. Ceux qui sont le plus à même de faire basculer une élection sont ceux qui sont le moins informés. Et donc, eux resteront sur des appréciations assez superficielles, et on ne sait pas du tout dans quel sens ça va basculer. Mais ça basculera de très peu et dans certains endroits bien déterminés.
Laurence Nardon, on arrive presque au terme de cette émission. Je vais vous la poser. Il va gagner, il va être réélu ou il peut perdre ?
Qui ?
Donald Trump. Donald Trump. Est-ce qu'il peut perdre ?
Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très ouvert. Exactement. C'est vraiment très difficile de répondre.
Ne se prononce pas. Non mais votre intuition là, on met toute l'analyse de côté. Votre intuition.
On n'a pas d'intuition, nous, on est des spécialistes.
Merci, Dominique. Ça, c'est
froid
la bonne réponse.
Non, c'est vrai.
Je trouve que c'est encore très ouvert et c'est impossible de répondre. Voilà.
Donc vous ne savez pas, vraiment, sincèrement.
Le seul truc qu'on sait, c'est que les démocrates gagneront le vote populaire grâce à New York et à la Californie. Et le seul truc qu'on sait, c'est qu'en fait, on s'en fiche. Parce que ça se jouera dans des états clés où ça se jouera à 10 000 voix.
Midst of the corn, the middle of the USA, here's where I was born, here's where I'm going to stay.
Merci beaucoup à nos invités, Laurence Nardon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales et que vous intervenez, je crois que c'est chaque semaine, hein, dans ce podcast Trump 2020, même si on ne sait pas s'il va gagner, hein, vous nous l'avez dit. Ce qu'on peut retrouver sur le site de l'IFRI. Merci également, Laurie Kenton, d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant l'Atlas historique des États-Unis, c'était exact. Chez Autrement. La fin du rêve américain, point d'interrogation,
très
chez
important.
Odile Jacob. Merci Marc Semo du Monde. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain. Voilà, c'est avec ce morceau, la valse de l'Iowa, puisque c'est là que vont commencer justement les caucus démocrates, de Greg Brown, qu'on se quitte.